Bonjour Raymond Richard au micro. Pour cette émission témoin, je reçois Gauthier Bess. Bonjour Gauthier, merci d'être à Radio Grand Ciel pour nous parler de vos engagements dans l'écologie et dans l'écologie qu'on mène aussi au quotidien. Comment vous êtes venu à l'écologie ?
Bonne question. Les prises de conscience écologiques sont nombreuses. Bon, j'ai eu la chance de grandir à la campagne, à travers le scoutisme, d'être toujours proche de la nature, en tout cas d'essayer d'apprendre à la découvrir petit à petit, des vacances à la campagne, et puis aussi un mode de vie familial assez économe, puisqu'effectivement, sans être dans le besoin, voilà, une famille nombreuse. On faisait en sorte de ne pas gâcher. Et puis, la famille nombreuse implique de passer les vêtements et donc de prendre soin des choses, de partager, évidemment. À la table familiale, si on ne pense qu'à soi et si on prend tout ce qu'il y a dans le plat, eh bien ça se passe mal. Donc, voilà, je pense que...
L'éducation a eu un rôle.
Mes jeunes années, effectivement, m'ont sensibilisé à ça. Et après, c'est des lectures pendant mes études, d'auteurs, de revues, qui petit à petit m'ont fait prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes et donc de la nécessité de trouver un mode de vie qui puisse mieux respecter la nature, la création aussi en tant que chrétien. Et donc ça passe ensuite au quotidien par des gestes à la fois très simples et très concrets, mais très importants, et donc une réflexion générale sur comment mener une vie bonne, une vie qui puisse permettre à l'humanité de continuer à vivre dans un monde hospitalier, habitable, en limitant donc toutes les destructions que nous infligeons, que nos modes de vie industriels infligent aux écosystèmes, etc., et qui, à terme, menacent notre propre survie.
Oui, puis alors il y a aussi des enjeux de démographie, puisqu'en fait, disons, dans les années 70, on était vers 3 milliards d'habitants et on considérait que ce serait dramatique. Maintenant, on est à 6 milliards et demi et on vogue vers les 9 milliards. Alors, donc là, il y a aussi des enjeux d'une seule planète pour tous, non ?
Bien sûr, alors c'est une question centrale. Il se trouve que j'ai participé à la fondation d'une revue qui s'appelle la revue Limite, qui est née un peu dans le sillage de l'encyclique du pape François sur l'écologie. Laudato si. Et justement, notre premier numéro consistait à essayer de voir comment on pouvait concilier démographie et écologie. Notre idée, c'est que, bien sûr, nos modes de vie essentiellement occidentaux, de consommation de masse, de production de masse, sont absolument insoutenables, déjà à 3 milliards d'habitants. Alors évidemment, maintenant que nous sommes 7 milliards d'êtres humains, et demain, peut-être 9-10 milliards, c'est absolument insoutenable. Alors, il y a des calculs qui montrent que si l'ensemble des êtres humains avaient le mode de vie d'un occidental, d'un européen, ou pire encore d'un américain, il faudrait 3, 4, 5 planètes. Bon, parce qu'effectivement, notre pression sur la nature, sur les ressources, l'air, l'eau, les matières minérales, les matières organiques, sont absolument délirantes et disproportionnées. Et chaque année, nous consommons de plus en plus tôt les ressources que la nature peut régénérer en une année.
Oui, c'est
donc,
vrai,
nous vivons
d'août,
à crédit. Voilà.
On s'arrêtait au mois d'août.
Exactement. Et donc, chaque année, on se rend compte que notre pression sur la nature est plus grande. Notre mode de vie est absolument insoutenable. Donc, nous, notre idée, ce n'est pas de dire « réduisons la démographie », quitte à stériliser les gens de manière plus ou moins contrainte.
C'est un peu excessif.
Notre idée, c'est, au contraire, plutôt que de faire décroître et de limiter le nombre des familles, eh bien... changer nos modes de vie, les simplifier, aller vers la sobriété. Nous, on parle même de décroissance, donc effectivement, casser le mythe de la croissance illimitée, l'idée que plus on produira, plus on consommera, plus on sera heureux, et aller et promouvoir, d'abord pour nous, occidentaux, qui sommes les premiers responsables de la crise écologique, c'est pas les pauvres avec les familles nombreuses qui polluent le plus, hein. Un riche célibataire, un trader célibataire new-yorkais ou de Shanghai, pollue infiniment plus qu'une famille, même de 10 enfants, éthiopienne.
Ah oui, alors ça, effectivement.
Voilà, donc, non, mais le facteur démographique, c'est important. Effectivement, 9 milliards de consommateurs occidentaux, c'est inenvisageable. En revanche, on peut, si chacun, chaque être humain, va vers un mode de vie plus simple, plus sobre, plus intelligent, parce que derrière tout ça, il y a l'intelligence, et que l'idée de gâcher, de gaspiller des ressources comme on le fait. Donc en fait, notre mode de vie, moi je pense que c'est une parenthèse qu'il faut refermer le plus tôt possible. C'est une parenthèse qui, dans l'histoire humaine, restera, à mon avis, comme une absurdité, non seulement parce que nous aurons vécu complètement au-dessus de nos moyens pour un bonheur matériel illusoire, mais en plus parce que ce mode de vie qui était censé augmenter le confort de quelques-uns, menace la survie de tous. Et on le voit bien aujourd'hui avec les dérèglements climatiques, avec l'extinction de la biodiversité, avec la destruction des sols, la pollution des eaux, la pollution de l'air. On parle des pics de pollution, mais en fait, à Paris ou à Lyon, dans les grandes villes, l'air est constamment pollué. Parfois, c'est pire que d'habitude. Mais en fait, les enfants aujourd'hui qui grandissent à Paris sont tous pollués, et on sait même que les enfants sont déjà pollués dans le sein maternel. Donc c'est face à cette gravité, alors il faudrait détailler évidemment de toutes les causes des problèmes, qu'on s'est dit, on ne peut pas continuer ainsi. Mais c'est... accuser les familles nombreuses, c'est se tromper de cause. Le problème, ce sont des modes de vie absolument délirants.
Vous écoutez Radio Grand Ciel.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Silencieux, c'est les années 70. Rachel Carson, halte à la croissance. Enfin bon, il y a eu des rapports déjà depuis 50 ans. Et ça n'a pas beaucoup bougé. Et maintenant, je trouve qu'on a quand même de bonnes raisons d'espérer quand je vois cette petite fille qui, aux Nations Unies, vient dire, eh bien, arrêtez vos singeries, vous les hommes politiques, pour penser à nous et penser au monde futur. Ça, je crois que ça va dans votre sens.
Oui, oui. Alors, en fait, depuis le début de l'ère industrielle, donc au 19e siècle, tout de suite, des gens ont sonné l'alarme. Simplement, ils étaient souvent des prophètes qui criaient dans le désert, puisque les effets, la destruction de la Terre n'étaient encore que peu visibles, étaient ponctuels. Aujourd'hui, on se rend compte de mieux en mieux, c'est de mieux en mieux médiatisé, mais aussi parce que c'est de plus en plus sensible.
Oui,
et même dans un territoire tempéré comme la France, ça commence à être de plus en plus visible et même spectaculaire.
Oui, les oiseaux ont complètement disparu de nos régions.
Alors
les
moineaux... Donc effectivement, tout le monde peut constater qu'il voit de moins en moins de mésanges, enfin, ou de petits oiseaux. Les moineaux, les rouges-gorges, etc. Tous les oiseaux des champs disparaissent à une vitesse folle, et ça, on commence à le voir de nos yeux. Mais je parlais aussi des changements climatiques où on voit les vagues de chaleur l'été qui se répètent chaque année, etc.
Au mois de février à 20 degrés dans certaines régions.
Alors évidemment, il ne faut pas confondre météo et climat. Oui. Il y a toujours des exceptions météorologiques.
Vrai.
Mais malgré tout, ça devient de plus en plus difficile de nier qu'il y a des dérèglements et que nos modes de vie industriels en sont au moins en partie la cause. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, des mouvements se réveillent. La difficulté, c'est que tant qu'on ne renoncera pas à un mode de vie globalisé qui consiste à tout délocaliser, les gens travaillent loin de chez eux, consomment des produits qui viennent de loin de chez eux, etc. Tout ça, évidemment, le système de la mondialisation.
Parce que c'est des questions financières. Je crois qu'on peut incriminer quand même cela d'abord.
Bien sûr. Alors, si on veut parler des mots qui fâchent, il y a aujourd'hui un système capitaliste qui se fonde sur l'accumulation des biens financiers dans les mains de quelques-uns.
Et qui ne s'occupe pas beaucoup de l'homme.
Et qui ne répartit que très modérément les richesses produites. Il y a des rapports réguliers qui montrent qu'effectivement, la richesse continue à se concentrer dans les mains de quelques-uns et ruisselle très peu vers les gens. Mais qu'en plus, il ne se soucie que très peu des conditions d'existence, des effets sur l'environnement. Et encore une fois, dissocier, c'est tout le sens de l'écologie intégrale développée par le pape François dans la Laudato aussi, et que donc notre revue Limite essaye aussi de mettre en avant, c'est qu'on ne peut pas dissocier les conséquences sur un écosystème des conséquences sur les sociétés. Nous ne survivrons pas longtemps à la disparition des oiseaux. L'exemple le plus clair, peut-être, ce sont les insectes pollinisateurs, qui disparaissent à une vitesse absolument folle. S'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, il n'y a plus de reproduction des plantes. En Chine, comme il n'y a plus d'insectes, ils commencent à polliniser à la main. Sauf que l'être humain fait ça beaucoup moins bien, et surtout ça coûte beaucoup plus cher évidemment, que les insectes qui font ça depuis des millénaires. Et voilà. Et donc en fait, on se place dans des situations impossibles où nous n'aurons plus rien à manger s'il n'y a plus d'insectes et d'oiseaux. Et puis en plus, nous consommons une eau polluée, les terres sont abîmées, etc. On pourrait parler du sujet des pesticides. Malheureusement, les sujets sont innombrables. Et tout ça vont à la même idée. Nous allons dans le mur si nous ne changeons pas de système. Et si individuellement, il y a la dimension collective.
Il y a le changement individuel aussi,
effectivement. Mais effectivement, il faut les deux. Voilà. Si chacun de nous ne commence pas à faire ce qu'il peut faire à son échelle, il y a peu de chances que les dirigeants de ce monde prennent les mesures. Donc, il faut qu'il y ait cette double pression Pression individuelle.
Individuelle, collective et politique.
Et effectivement, qu'ensuite, en tant que citoyen, nous disions, attendez, nous, nos efforts individuels ne peuvent pas suffire. Si effectivement, vous fermez votre robinet et vous éteignez les lumières quand vous n'en avez pas besoin, c'est formidable et il faut commencer par là, puisque ça, c'est à notre portée immédiate. Et si on ne le fait pas, on risque pas d'avancer. Mais en même temps, si on ne dit pas à nos dirigeants, nous voulons une économie, une agriculture, on est en plein salon d'agriculture en ce moment, qui respecte les sols, qui permette aux agriculteurs de vivre et non pas d'enrichir la grande distribution, etc. Donc nous voulons des lois, nous voulons des interdictions de certains produits qui sont nocifs pour la nature et pour la santé humaine, etc. Eh bien, voilà, nous continuerons à dégrader nos conditions d'existence.
Alors, parlons
sur
un
Terre.
Peu de, justement, concrètement. Vous vous dites, eh bien, ça commence à la maison. Peut-être, d'une certaine manière, être économe. Et en plus, cela intéresse directement les personnes, puisque ça leur fait faire des économies. Mais ça a aussi un impact d'éducation.
Bien sûr.
Par exemple.
Voilà, alors c'est là aussi que séparer la question écologique de la question familiale et donc démographique me paraît un non-sens, puisque précisément tout le défi, c'est d'élever nos enfants dans le respect de la nature et donc dans des modes de vie qui permettent à la nature et à l'être humain, qui fait partie de la nature, de s'épanouir, de vivre une vie bonne. Et donc effectivement, si on ne transmet pas à nos enfants de bons réflexes, des bonnes habitudes, des bonnes pratiques, il y a peu de raisons d'espérer un changement. Donc je pense que les parents sont aujourd'hui en première ligne de la conversion écologique et que effectivement, à la maison, il faut apprendre donc à ne pas gaspiller,
à fermer la lumière et le robinet.
Alors évidemment, voilà, ça fait partie de la non gaspillage, mais aussi à dire aux enfants qu'il est normal qu'ils sachent d'où viennent ce qu'ils mangent. Voilà, moi, je suis très fier quand mon fils aîné me demande « Et ça, ce légume, d'où vient-il » Et on va lui dire « Il a été cultivé par le maraîcher bio. » Et effectivement, je peux lui rendre compte de ce qu'il mange parce que je sais où ça a été produit, quand et comment. Et puis, si ça vient du jardin, c'est encore mieux. Il dit bah, « Tu vois, la salade que tu manges, c'est nous qui l'avons cultivée, que tu as vu pousser, etc. » Et donc, redonner aussi du sens à ce que nous mangeons. La consommation de masse des surgelés, par exemple, vous ne savez pas comment ça a été produit, d'où ça a été produit, etc. Ou alors, il faut mener des enquêtes, et quand ces enquêtes sont faites, on se rend compte du délire, de l'énergie absolument folle qu'il faut pour que votre plat surgelé arrive dans votre assiette décongelée.
Les haricots verts du Kenya arrivent épluchés dans un petit barquette.
Voilà, sans parler d'une alimentation surcarnée qui implique effectivement des problèmes dans l'élevage industriel absolument énormes. Et donc, l'alimentation est un des meilleurs lieux où les enfants peuvent comprendre que, bah oui, un poireau, ça prend du temps à pousser. Et que ça vient de la terre, par exemple. Parce que si vous achetez ça sur le marché, vous allez voir que les légumes ne seront pas impeccables. Bah oui, ils viennent de la terre. Et donc, ça ne pousse pas dans les magasins. Et il y a un travail humain, il y a une patience de la terre. Et donc tout ça, ça fait prendre conscience que nous dépendons de la terre. Voilà, que nous ne sommes pas des extraterrestres qui, juste avec nos cartes bancaires, pouvons créer comme ça des aliments. Ben non, ces aliments, c'est très important que les enfants en aient conscience, viennent
ça prend du temps.
D'un travail, d'un labeur.
Gauthier, je crois que je vais vous réinviter parce que ce que vous nous racontez est particulièrement intéressant. Mais là, le temps s'achève.
Pardon, j'ai été trop bavard. Désolé, vous aviez 16. Le chronomètre. Moi, je ne l'avais pas sous les yeux.
Non, non, c'est très intéressant. Aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Et puis, peut-être l'occasion pour vous d'aller relire l'encyclique Laudato si. Bonne semaine à tous, au revoir.